On va se mettre en opposition carrée au pouvoir. On va aider tous ceux qui veulent protester, contester et faire la révolution.
Working people, young people, the elderly, all of us need to get involved. We need to take our power into our hands collectively.
Bienvenue au podcast d'Alternative Socialiste.
Bonsoir à tous et à toutes. Ici Charles d'Alternative Socialiste. Ce soir, je suis en compagnie de camarade Fred. Comment vas-tu, Fred?
Ça va bien, merci Charles.
Excellent. Et puis, on est aussi avec camarade Rosalie. Comment vas-tu?
Ouais, salut, ça va bien. Ben, contente d'être ici ce soir.
Good, excellent. Ben, moi aussi, je suis content d'être là parce qu'on va parler de quelque chose qui préoccupe tout le monde en ce moment. C'est la question environnementale, c'est la question de l'écologie. Donc, premièrement, Fred, puis Rosalie, je pense que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a une crise climatique. Puis que c'est le terme quand même assez approprié, non?
Oui, tout à fait. En fait, c'est une crise climatique qui menace l'ensemble des humains, des espèces animales sur la Terre.
C'est ça.
Avec ça, si ça va mal, ben éventuellement, on disparaît.
Ouais, ben c'est là aussi, je pense, où on en est rendu. Mais la question qui me vient à l'esprit, là, c'est quoi ça, la crise climatique?
Ben la crise climatique, écoute, si on remonte, les humains, ça fait quand même, ça date pas d'hier s'ils sont sur la Terre, sauf que, disons, si on regarde plus récemment, depuis que le capitalisme s'est développé, on voit des industries du charbon, de la pollution qui apparaît, et puis on se rend compte qu'en même pas 200 ans, les humains ont changé la planète. Il y a beaucoup plus de gaz à effet de serre. La planète se réchauffe, et puis ce changement-là, qui a été dans le fond un peu, on pourrait dire, l'enfant du capitalisme, fait que maintenant, l'espèce humaine, la Terre, est menacée, si on résume.
OK, donc finalement, la crise climatique est quelque chose de concret, contrairement à ce que pourraient dire des gens de droite ou des climato-sceptiques qui disent, qui spéculent en disant « Non, c'est juste une idée là, de gauchiste extrémiste. »
Ça
affecte, c'est ce qui, c'est la crise climatique, c'est ce qui affecte notre état en tant qu'être vivant sur la Terre.
Effectivement. Mais pour faire un parallèle, c'est un peu comme si on était en voiture, on roulait très, 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 très vite, et puis on se dirigeait vers un mur, puis les personnes qui disent qu'il n'y a pas de problème de réchauffement climatique, c'est les personnes qui disent on devrait pas freiner.
OK. Ouais, c'est bon. Ouais, l'image est assez frappante. Mais y a-t-il des causes? Pourquoi la crise?
Pourquoi la crise? Pourquoi maintenant? En fait, on se rend compte, si on regarde, il y a une centaine de compagnies globalement sur la Terre qui sont responsables d'environ 70% des émissions de gaz à effet de serre. C'est souvent des compagnies pétrolières, de charbon et autres qui polluent beaucoup et polluent depuis longtemps maintenant.
OK, mais ces compagnies-là, ils appartiennent à notre monde, donc c'est le système? Est-ce qu'on peut dire que c'est le système capitaliste qui engendre en partie la crise climatique?
Tout à fait, parce qu'en fait, avant qu'il y ait un système capitaliste, avant qu'il y ait des besoins d'avoir des voitures, avant que des personnes nous disent qu'on avait plein de besoins qu'on savait pas qu'on avait avant, avant ce marketing-là, avant toutes ces compagnies-là, les humains ont quand même vécu pendant des milliers d'années sur la Terre sans jamais essayer de la détruire. Mais là, maintenant, pour les impératifs de profit, pour essayer d'avoir du rendement, essayer... Puis là, on s'entend, c'est toujours les humains après les profits. Fait qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ben, si quelqu'un il décide de lui produire du pétrole à outrance, produire du charbon, et il se soucie pas des conséquences climatiques de cette production-là, et juste des profits, à ce moment-là, ben évidemment, il nous mène, il pèse un peu plus sur le gaz, littéralement, pour nous diriger vers le mur.
OK.
Mais là, Fred, si je peux me permettre de poser une question, tu parlais des voitures, justement, comme si c'était pas nécessaire, mais pourtant, on pourrait penser qu'il y a bien des gens qui, justement, ont besoin de leur voiture pour se déplacer, pour aller au travail. Qu'est-ce qui se passe, là?
Ben, en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a eu, en fait, si on regarde dans les années antérieures, il y a des compagnies comme General Motors, ou à une époque où il y avait, par exemple, des tramways, des trolleybus à Montréal, on parle d'autobus électriques, qui étaient reliés, qui remplaçaient les tramways. À une époque comme ça, dans les années 50, JM a fait un gros coup à grandeur de l'Amérique du Nord, c'était de racheter des compagnies de transport qui n'étaient pas nécessairement publiques, mais qui desservaient quand même la population,
ouais,
pour les fermer.
Ah!
Et là, a créé le besoin de la voiture telle qu'on le connaît aujourd'hui. Une fois que t'as plus de transport public, ben, c'est quoi l'alternative? Il ne reste à peu près que la voiture. Parce que souvent, les villes, dans les dernières décennies, sont beaucoup étendues, toujours plus loin. Il y a 100 ans, les ouvriers travaillaient à côté de l'usine. C'était le monde du quartier. C'était l'usine du quartier. C'était l'épicerie du quartier. Tout se faisait dans le quartier, mais à pied. Mais dans les années 50, 60, comme ça, on voit les transports publics disparaître, se faire racheter, se faire fermer, mm-hmm, un peu partout, ou ont de la compétition de la voiture, puis les terrains, les maisons sont moins chères plus loin, donc on a des belles banlieues modèles où, évidemment, il n'y a pas de transport public, ça prend des voitures. Fait que la société se développe en fonction des impératifs de General Motors et autres compagnies de voitures qui, eux, favorise ce modèle de société-là.
Mm-hmm. Donc, mais très bonne question, Rosalie. Merci de l'avoir posée. Mais ce qui m'amène à soit poser comme question ou affirmer, je ne sais plus trop comment quoi dire, mais il y a un lien entre la crise puis l'habitat urbain avec notre environnement, la vie humaine, mais aussi, si on veut sauver la planète, il faut qu'on arrime les besoins humains réels avec une solution écologique. On peut pas, comme on entend ça, là, faut sacrifier, là, pour sauver la planète. Tu réponds quoi à ça, Fred, là?
Je dis pas qu'il faut se sacrifier. Je dis pas qu'il faut prendre des douches de 2 minutes à l'eau froide, absolument.
C'est ça.
Je dis que ça, pour un problème collectif, ça prend des solutions collectives. Puis évidemment, pour avoir une solution collective, on peut penser, évidemment, à des investissements massifs en transports en commun pour développer les transports en commun tels qu'ils auraient dû être si on avait continué de les développer depuis 100 ans sans interruption. Pour continuer à construire des métros, pour avoir davantage d'autobus, puis maintenant, en plus de ça, on peut avoir des autobus électriques, des autobus hybrides, qui sont moins polluants que les anciens autobus. On peut développer des trucs comme ça, mais ça prend une volonté, ça prend des investissements massifs de ce côté-là, puis pour ça, évidemment, faut aller chercher l'argent où elle est. Faut vouloir, faut avoir une volonté politique pour en même temps aussi changer la société, la réorienter. Faut plus aller en direction des profits, faut aller en direction de qu'est-ce qui est bon pour la planète, qu'est-ce qui est bon pour la collectivité. Puis évidemment, une alternative socialiste nous amène dans une bonne direction. Plutôt que de dire, travaillons sur réduire la durée des douches et prendre toujours des douches de plus en plus froides, ou non, t'es méchant parce que tu utilises ta voiture, tu devrais faire 3 heures de transport en commun à chaque matin et à chaque soir. Ça tient pas debout. Les solutions individuelles nous amènent pas dans un problème collectif, disons.
OK. Oui.
Mais donc, il est où l'argent dont on aurait besoin pour supporter les transports collectifs? Y en a-t-il de l'argent?
Ben, de l'argent, il y en a. Il y en a beaucoup, en fait, même. Si on regarde, par exemple, au Québec, le gouvernement caquiste, l'an dernier, a mis 10 milliards de dollars. Ça, c'est comme l'équivalent d'un gros système de métro complet, là, dans genre on double le métro à Montréal. Mais à la place, le gouvernement caquiste a préféré faire un chèque de 10 milliards de dollars pour le mettre dans quelque chose qui s'appelle le Fonds des générations, qui est en fait un...
Moi, c'est quoi ça, le Fonds des générations?
Ben, en fait, c'est un petit peu comme jouer l'argent de toute la population du Québec à la bourse. Puis on s'entend que ces derniers temps, la bourse, ça vient de se planter. On a peut-être perdu 2 milliards comme ça pour l'argent qu'on a investi l'an dernier.
Fait que l'argent, ils prennent notre argent à même nos impôts, puis ils font du gamble.
Ouais, ils font du gamble en bourse comme ça. C'est un peu de la spéculation parce que l'idée géniale, c'était on va imposer de l'austérité aux Québécois, on va aller piocher dans le budget, puis dire créer des déficits en mettant de l'argent dans le Fonds des générations. L'argent disparaît du budget, mais en fait, l'argent est toujours là, il est juste placé en bourse. C'est juste que ça profite pas réellement aux travailleuses, aux travailleurs. Pendant ce temps-là, on développe pas le métro, on s'occupe pas des problèmes dans le système scolaire, on a des écoles qui fuient, des problèmes hospitaliers, tout ça. L'argent, elle va pas pour aider tout le monde. les travailleurs, les étudiants.
Puis si on continue à faire du millage sur la question de Rosalie, elle est où cet argent-là? Moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a une question de la gestion de notre argent. Mais cette gestion-là, comment on devrait la faire, Fred? Je veux dire, d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue de l'environnement, là, est-ce qu'on doit encore s'en remettre à l'État? Est-ce qu'on devrait démocratiser les lieux de pouvoir, finalement, pour les gens qui sont concernés, c'est-à-dire toi et moi?
Ben, il faudrait certainement démocratiser l'État, parce que l'État actuel, c'est vraiment dommage, parce que l'État fait tout le contraire de ce qu'il devrait faire. Actuellement, la CAQ a accordé 900 millions de dollars en réduction de taxes scolaires. Ça veut dire pour moins financer le système scolaire, et cette réduction de taxes-là a surtout profité aux riches. Les grandes familles riches, millionnaires et milliardaires au Québec, ont eu la plus grosse baisse de taxes. Mais c'est de l'argent que les écoles n'auront pas. Fait que c'est à chaque fois que la CAQ prend une décision, ou même les libéraux avant aussi, qui avaient baissé de 20% les impôts des plus riches, à chaque fois qu'on fait des cadeaux comme ça aux plus riches, ben il y a quelqu'un qui paye. Puis ça donne comme ça, juste par hasard, si on sort des chiffres, que ce que ça coûte pour, admettons, la moitié de la population du Québec en transport en commun, c'est à peu près 900 millions par année. Ben, c'est à peu près l'équivalent de la baisse de taxes de la CAQ l'an dernier.
Mais là, c'est ça. Là, on parle vraiment, tu sais, là, on est quasiment dans une discussion purement quasiment économique, là. Mais pour en revenir à un sujet qui est finalement comment se sortir de la crise climatique, t'as quand même mentionné la question du transport en commun. Puis on va avoir quand même une pensée pour les gens qui habitent pas en ville. Fait qu'il faut repenser tout le système à l'échelle même du Québec, de comment on dessert ça. Fait que la nationalisation, c'est une possibilité même, plus qu'une une possibilité, ça devient quasiment une prérogative, là.
Tout à fait, c'est nécessaire. Parce qu'en fait, c'est pas juste nationaliser pour nationaliser. Mm-hmm. Parce que des trucs nationalisés, on en a au Québec. Mais il faut que ça soit nationalisé sous le contrôle des travailleurs qui prennent des décisions démocratiques.
Ben oui, parce que Hydro, c'est le meilleur, hein? Le meilleur exemple. Oui. On dit, hey, ça pollue moins qu'ailleurs, puis tout ça. Tu réponds quoi à ça, tu sais?
Ben, c'est vrai que Hydro pollue moins ailleurs, mais pourquoi est-ce qu'on paye un président des fortunes pour qu'il fasse pas grand-chose, finalement, à Hydro-Québec? Tellement pas grand-chose qu'il quitte pour Bombardier, où, finalement, j'imagine que ses anciens amis voulaient l'avoir parce qu'il vendait déjà des avions d'affaires avant de s'occuper d'Hydro-Québec. Donc, il n'y avait pas de compétences particulières pour diriger Hydro-Québec. Mmh. Si on demandait aux travailleurs d'Hydro-Québec, probablement, comment est-ce qu'ils développaient Hydro-Québec, probablement, il y aurait des meilleures idées que le président qui est juste assis dans une tour au centre-ville et qui ne sait pas vraiment comment ça se passe.
Ouais. Rosalie?
Tu parlais de qu'il n'a pas fait grand-chose, mais il faudrait souligner aussi que ce qu'ils font, c'est qu'ils submergent des terres ancestrales autochtones, souvent, qui empêchent justement nos Premières Nations de vivre leur vie, là, c'est ça.
Fait que l'écosystème, même Hydro, qui se targue, en tout cas de la direction d'Hydro, se targue de dire, ben nous, au moins, on sait, c'est de l'hydroélectricité, ben, ils détruisent des écosystèmes, là.
Oui, puis pas non seulement ça, mais en plus de ça, Hydro-Québec respecte même pas ses promesses, parce qu'en fait, les Inuits de la Côte-Nord, ils intentent une poursuite, je pense, de 9,5 millions de dollars contre Hydro-Québec, parce qu'ils avaient fait des blocages de la route il y a quelques années, comme ça, pour avoir simplement pour que quand Hydro-Québec construit, on peut dire dans leur coin de pays, pour qu'au moins Hydro-Québec les fasse travailler. Parce que dans le fond, c'est bien beau, non seulement ils détruisent les terres, ils promettent de faire travailler, mais dans les faits, ce qu'on se rend compte, c'est qu'Hydro-Québec a même pas respecté ça. On n'a même pas fait travailler les Inuits de la Côte-Nord, comme il avait dit et promis qu'ils s'étaient engagés à le faire. Donc, c'est ça qui arrive quand Hydro-Québec n'est pas sous un contrôle démocratique. Les travailleurs auraient dit, non seulement on va travailler, mais voici les conditions pour lesquelles, admettons, on va te permettre d'exploiter les ressources hydroélectriques du Québec, plutôt que juste comme se faire défoncer l'arrière de pays, puis ensuite de ça, ils viennent harnacher les rivières, puis ils repartent, puis ils ont juste saccagé, puis ils t'ont pas donné de job en plus.
Okay. Fait que c'est la nationalisation, oui. Parce que là, on a pris Hydro pour parler de la question de la nationalisation.
Oui.
Je faisais référence, entre autres, au secteur clé de l'économie, puis les ressources naturelles. Dieu sait qu'ici, au Québec, c'est un secteur assez important. Donc, oui à la nationalisation, mais sous contrôle démocratique des gens qui sont concernés, c'est-à-dire les travailleuses et travailleurs, mais les communautés aussi.
Tout à fait.
OK. Bon, ben ça, déjà, là, ça clarifie, parce que là, il y a des gens qui disent « Ah, mais regardez la nationalisation, ce que ça a donné, c'est pas bon, puis là, ça va donner comme le régime soviétique. » Oh, oh, minute, je pense que c'est pas ça qu'on envisage, là, ici, l'alternative socialiste, là.
Non, toujours, on parle toujours aussi de centralisme démocratique.
Mm-hmm.
On parle aussi que les travailleurs se réunissent ensemble pour faire des discussions, pour amener simplement la meilleure décision collective des travailleurs, et c'est ensuite de ça les travailleurs appliqueront cette décision-là qui sera au bénéfice des travailleurs aussi, de façon générale. Puis évidemment, quand je dis travailleurs, j'inclus évidemment les travailleuses.
Oui, puis puis éventuellement, je veux dire, c'est tellement un sujet qui regarde tout le monde que c'est toutes les catégories de personnes qui sont en situation de précarité, puis c'est aussi les personnes qui sont retraitées, parce que c'est pas parce que t'es retraité aussi que t'es riche. Hein? Ça, on peut le voir très bien dans certains domaines que la retraite, c'est pas payant. Mais j'amenais ce point-là parce que là, si je comprends bien, on a des responsables. Ils ont des noms, ces gens-là, puis ces entreprises-là. Tu disais qu'il y en avait 100 multinationales qui sont responsables de 71% des GES.
Oui, autour de 70.
Fait que là, on a un problème de système économique qui s'appelle le capitalisme, qui engendre une crise, puis qui n'est pas redevable envers sa population, ou la population en général, c'est-à-dire la communauté humaine, qui détruit et qui paye les ressources. On a aussi parlé jusqu'à présent de nationalisation sous contrôle démocratique comme une des solutions. Mais encore, Fred, qu'est-ce que tu peux nous apporter de plus? Parce que là, c'est bon, on vient de prendre conscience qu'il y a un système qui joue contre les travailleuses et travailleurs. Donc, il y a une lutte de classe à mener dans la question écologique. Mais au niveau écologique, comment on fait une transition écologique? À la vue de ce que tu nous as dit, où était l'argent? Comment on va vers là?
Ben en fait, je l'avais dit au début, dans le fond, c'est quoi les racines du problème? Ben c'est un peu le développement du capitalisme depuis autour de 200 ans. Donc si le capitalisme est le problème, dans le fond, faut se poser la question du capitalisme comme problème.
Ouais.
Donc on doit évidemment aller plus loin. Si le capitalisme est le problème, si les sociétés capitalistes ne font que causer des problèmes et ne s'occupent pas des solutions, ben là, faut repenser l'économie, repenser la société pour que elle soit au bénéfice des travailleurs. Pas qu'elle soit au bénéfice des actionnaires. Pas qu'elle soit au bénéfice des, on peut dire, les one percenters, le 1% des milliardaires et millionnaires. Ce qu'on veut réellement, c'est une économie par et pour les travailleurs et travailleuses.
Ah, là, c'est intéressant, là. L'économie est contre nous, ça veut dire qu'il faut démocratiser l'économie.
Tout à fait.
Pour, dans le fond, qu'on planifie.
Exactement. L'économie, une économie planifiée dans laquelle, comme tu l'as dit, il faut que ça soit décidé démocratiquement. Et pour décider démocratiquement, ben il faut que le monde soit consulté à toutes les étapes. Mais pas juste une fois à chaque 4 ans ou 3 ans ou 5 ans. Parce que juste faire une croix sur un bulletin de vote, on s'entend que ça nous donne toujours la même chose. Des fois, on change juste la couleur du parti, on change la shape du drapeau, on change de slogan, mais peu importe que quelqu'un ait les deux mains sur le volant, le pied sur l'accélérateur, ou n'importe quelle analogie, ou développe Anticosti, à chaque fois, on se ramasse avec le même problème. Parce que derrière, c'est toujours au bénéfice des actionnaires et pas au bénéfice des travailleurs et de la population.
Merci Fred pour ça. Écoute, là on va parler un peu plus de la situation au Québec. On sait qu'il y a la négociation du secteur public qui arrive. Est-ce qu'il y a un lien entre ça puis la question écologique? Est-ce qu'il y a une mobilisation qui est possible là? Ou est-ce qu'il y a des revendications qui viennent même des travailleuses, travailleurs du secteur public en matière écologique par exemple?
Ben... il y en a certaines qui sont portées à certains endroits.
OK.
Disons que si on regarde les services publics, on dit que c'est un bien collectif.
Ouais.
Quand tu as accès à une éducation, admettons, publique et gratuite, de qualité, ben ça bénéficie à une tranche de la population. Si tu as des soins, des CHSLD, des centres pour personnes âgées de qualité, où il y a plus qu'un bain par semaine, par exemple. Ça bénéficie à une autre tranche de la population. Puis là, après ça, t'as des soins pour toute une gamme de population, où là, t'as les hôpitaux. T'as ensuite de ça, le système de transport en commun. t'as le fait d'avoir une électricité pas chère. Et ben tout, oui. tout ben ce oui. système public-là, qui va des bibliothèques en passant par le système d'aqueduc, le système qui déneige même les rues enneigées l'hiver, qui déglace les trottoirs, qui fait que le monde ne font pas des chutes, ça ne blesse pas. Tout ce système public-là est notre, on peut dire, notre trésor collectif. Mm-hmm. Puis si on s'en occupe pas, ben qu'est-ce qui se passe? Ben on s'en rend compte. Il y a comme des trous dans le filet social. Il y a des personnes qui tombent en deux chaises. Mm-hmm. Puis plus il y a des trous, puis plus il faut patcher, plus on se rend compte que finalement, ah, quand on a besoin du système, ben il n'est pas là pour nous. Mm-hmm. Fait qu'il faut s'occuper collectivement du système, faut le développer. Faut s'occuper des personnes qui tiennent ce système-là. Mmh. Puis ce système-là, il faut pas l'oublier, c'est majoritairement des travailleuses. Parce que dans le système public, tu disais, je pense 550 000 personnes, ben il y en a presque 400 000 que c'est des travailleuses.
Non.
C'est les femmes qui tiennent le système public à bout de bras. Fait que si on s'occupe pas du système public, ben on attaque toute la société. Et particulièrement ces 400 000 femmes-là.
Ben écoute, c'est vachement intéressant ce que tu dis, puis il y a un mot que je retiens dans ce que tu viens de nous dire, c'est le mot développer le secteur public, parce que là, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, mais la transition écologique, là, juste et solidaire, là, comme on entend dans les médias en ce moment, ou du moins qui est discutée chez les gens de gauche, ben c'est le moment là de l'élargir, ce secteur public-là, là. Organiser le réseau de transport, là, on parle beaucoup de transport aujourd'hui, mais à Laval, puis et puis à Longueuil, puis à Montréal, puis au Saguenay, c'est même pas le même transport en commun. C'est des compagnies privées, c'est tout ça, puis qui sont différents.
Ben ils sont tous un petit peu gérés par l'ARTM, Exo, okay. puis des structures très bureaucratiques,
ouais.
qui fait qu'il y a plus aucun travailleur, aucune travailleuse qui a son mot à dire. Même l'argent qui est payé. Si vous achetez un billet de métro ou d'autobus, ça va même pas direct là, disons par exemple à la Société de transport de Montréal, ça va aller à cette structure là qui reverse de l'argent, et on a même une structure en fait qui est tellement bizarre qu'elle génère des profits, elle génère des surplus, plutôt que d'utiliser les surplus pour développer ce pourquoi elle devrait faire, développer le transport en commun, l'améliorer, ben non, elle génère des surplus. Où ils vont les surplus? On sait pas trop, mais ils en font. C'est antidémocratique.
Fait qu'il faut bâtir un mouvement aussi.
Tout
là,
à fait.
Ça nous amène, là, parce que là, on a ciblé aussi qu'il pourrait avoir de l'argent, là. On n'a pas non plus toutes les statistiques. Ah, mais avant d'aller vers le mouvement, moi, j'ai une question. Est-ce qu'on a les chiffres sur vers où... Ça serait quoi comment dire, combien de personnes, c'est une hypothèse, là, utiliseraient un transport en commun bien développé? Est-ce qu'on est capable de savoir combien ça dégagerait... As-tu ces chiffres-là ou as-tu une statistique, en gros, une statistique intéressante pour les gens qui sont encore sceptiques que le transport en commun, c'est pas juste une mesure de l'icône rose, que ça peut avoir un impact sur l'écologie de façon positive, mais aussi dans la vie des gens?
Ben, on se rend compte quand même que les transports publics se sont développés. Si on recule, mettons, 30 ans en arrière, je pense que les usagers payaient 80% des frais du transport en commun. Maintenant, ils en payent juste 30. Fait qu'il y a eu des investissements publics, il y a eu une volonté d'améliorer des choses. Il y a, même si on n'est pas où on aimerait être, il y a quand même eu des développements. Il y a 50 ans à Montréal, le métro commençait. Il n'y avait pas autant de stations. Il y a eu des années, il y a eu des décennies où il s'est développé. Fait qu'on peut toujours dire... On va y aller à pas de tortue comme on a eu dans les 50 dernières années, où on peut dire, on peut peut-être peser sur l'accélérateur du métro plutôt que de peser sur l'accélérateur de la voiture. Puis on peut dire, ben déjà, par exemple, à Montréal, on constate sur ce qu'on appelle la ligne orange que c'est déjà bondé le matin.
Ouais.
Par exemple, si on voulait faire la gratuité du métro, par exemple, à Montréal, ben il y a déjà pas de capacité le matin. Fait que ce qu'il faut, dans la première étape, c'est augmenter la capacité. Si on veut que les personnes viennent vers le transport en commun, il faut que le transport en commun soit attractif. Pas juste parce qu'il est pas cher, mais on veut un service public de qualité qui compétitionne la voiture. Qui soit, en fait, qui donne le goût aux personnes de prendre le transport en commun. Si j'avais le choix par exemple, quelqu'un qui partirait de Laval, en prendre le métro qui passe aux minutes, puis qui m'amène 10 fois plus rapidement que de passer par un pont qui est bloqué, ben j'irais prendre normalement, j'irais vers le métro, je dirais, ben écoute, ça va bien mieux comme ça. Par exemple, à Londres, je sais qu'ils ont développé une ligne de métro express pour se rendre à l'aéroport. Mais elle fait ça plus rapidement que n'importe quel autre moyen de transport. Fait qu'on peut faire des systèmes plus rapides. Je sais qu'à Paris, par exemple, il y a le réseau express régional. Il y a des trains qui roulent à côté des autres trains, ben, pas sur la même voie, mais dans des stations qui sont toutes interconnectées, qui permettent de se rendre plus loin, plus rapidement. Okay. Ils ont dit, on va avoir un réseau express à côté du réseau traditionnel de métro. Quand il y a une volonté, il y a beaucoup d'exemples comme ça qu'on peut regarder dans le monde, où on voit que quand il y a une volonté de le développer, puis que ça soit vraiment bon, puis une bonne alternative, ben c'est possible.
Ouais, mais tu sais, là, je me mets dans la peau de quelqu'un qui est sceptique par rapport à notre discours, là, puis qui va dire, ouais, mais là, le go, il a sorti un budget, puis il est vert, là. Les capitalistes, ils font leur effort.
Ah ben oui, on peut constater par exemple que Legault, il va mettre la moitié du budget du troisième lien à Québec, qui est un tunnel dans lequel il va avoir une voie réservée, je pense, à l'heure de pointe pour se rendre au centre-ville de Québec. Puis la moitié du budget pour construire le tunnel de, je pense, 10 milliards, va être puisé à même le fond vert. Fait que c'est comme ça que la CAQ fait des projets verts. Elle dit, ben on fait une voie réservée 2 heures par jour, donc c'est vert, puis ben c'est ça, le tunnel... qui va amener surtout des voitures puis de la pollution au centre-ville de Québec, par exemple, ça devient un projet vert, selon la CAQ. C'est ça, c'est pas ça qu'on veut faire, mais c'est ça que la CAQ fait.
Fait que lui, s'est justifié en disant, j'ai pris ça dans le fond vert, fait que c'est vert. C'est à peu près quasiment ça, sa logique, là.
C'est... Exactement. Moi, si je pense que c'est plus vert comme la couleur de l'argent que vert écologique.
Ah, c'est probablement très vrai, en fait. Donc, ce qui m'amène à... Oui, vous avez...
Ben, en fait, justement, ouais, je voudrais poser un peu la question. Donc, ça profite à qui, ça, justement? Tu sais, comme le troisième lien, ça profite à qui? Les transports en commun, ça profiterait à qui?
Ben, les transports en commun profitent aux travailleuses et aux travailleurs, parce que la majorité des personnes qui utilisent le transport en commun, en fait, là aussi, je parlais du secteur public, mais les utilisatrices sont majoritairement des femmes dans le transport en commun. Si on regarde, par contre, l'automobile individuelle, des trucs comme le troisième lien, ben, ça va profiter probablement à beaucoup de compagnies qui vont avoir beaucoup de contrats de l'État pendant plusieurs années. Pis c'est pas pour rien que ça coûte des milliards, des projets d'infrastructure comme ça. C'est pas parce que c'est le premier lien, on s'entend, c'est le troisième lien à Québec.
Ouais.
Il y en a déjà deux.
Ouais.
Donc, ça va profiter à plein de compagnies qui vont faire des plans. C'est certain que ça va créer du travail. Mais pendant qu'on met des 10 milliards pour créer un troisième lien à Québec, qui permet d'avoir des voitures qui circulent sauf qu'en gros quelques minutes pour aller au centre-ville de Québec, ben pendant ce temps-là, on développe pas le transport en commun. Parce que c'est des choix de société qui sont pas bons, dans le fond, on peut dire.
Et je pense que au plus long terme aussi, le troisième lien et puis ne pas subventionner les transports en commun, ça profite aussi aux compagnies pétrolières,
ben,
aux compagnies qui construisent les voitures, etc.
Ben ouais.
Tout à fait. Même si Legault il donne des subventions jusqu'à 8 000 $ si vous achetez une Tesla à 114 000 $, puis on s'entend que c'est pas les travailleuses et les travailleurs qui sont visés par ça réellement. Qui a 114 000 $ à dépenser sur une Tesla? Ben évidemment, c'est construit par un millionnaire, ou ben, en fait milliardaire, Elon Musk, puis ça profite, je pense, aux autres millionnaires qui sont verts. En fait, même quand quelqu'un achète une Tesla, on peut dire il donne pas d'argent aux compagnies pétrolières. Non, mais en même temps aussi, il finance pas le transport en commun, parce qu'il y a juste 30$ sur son permis qui finance le transport en commun. Donc les compagnies pétrolières, c'est eux qui sont derrière aussi le fait que les voitures sont généralement encore majoritairement grosses et polluantes. Puis c'est des compagnies. Mais même si faut quand même reconnaître que à cause de certains États en Amérique du Nord, les voitures sont généralement moins polluantes, mais en même temps les constructeurs vont pousser pour vendre toujours des plus gros modèles, des plus gros SUV, des plus gros 4x4, qui sont en train de, en fait, remplacer des voitures moins énergivores sur la route. Fait que, en même temps que, je dirais, le travailleur moyen essaye de prendre quelque chose qui consomme pas trop, toutes les compagnies de voitures et de pétrole sont bien contentes de vendre des 4x4 et autres.
Ben, ça fait juste prouver qu'il y a une lutte de classe. que l'écologie, c'est une lutte de classe, puis que peu importe ce qu'ils vont nous apporter, là, comme capitalisme vert, là, le fameux green, greenwashing?
Greenwashing, c'est ça le terme qu'on utilise. Surfing, il y en a plusieurs.
OK. Ben, que finalement, excusez-moi, mais c'est de la don pour nous. Parce que là, ils vont nous demander qu'on paye leur prix pour avoir une Tesla, pour avoir je ne sais pas quelle affaire, des pots maçons à 20$. Désolé, je connais pas le prix d'un pot maçon. Mais voyez le genre, c'est ça que je veux dire, c'est que finalement, le capitalisme, de un, parce qu'il a besoin d'être rentable, ben, les grands empires économiques ont besoin de profits à tout prix pour s'enrichir, pour... eux éventuellement déménager sur Jupiter, Mars pour ça. C'est ça, c'est plus facile de nous convaincre qu'il y a pas de plan sur cette planète là, mais qu'il y en a un ailleurs. Au lieu de dire ben non, finalement on peut changer ça, mais c'est pas dans le capitalisme. Puis oui. Ça c'est notre job nous socialistes que de bâtir la conscience écologique d'un point de vue de la lutte de classe, puis d'avoir une structure révolutionnaire, politique, une organisation politique marxiste, ouvertement socialiste, qui dit, pas qu'on s'en va vers là, mais comprenez ce que je veux dire, là. C'est-à-dire, là, c'est pas le capitalisme qui peut nous sauver, puis c'est encore moins les riches.
Tout à fait. Puis je pourrais peut-être même faire un petit parallèle avec les Gilets jaunes en France, où eux ont eu une taxe sur l'essence imposée par Macron, qui était presque le même montant que ce que Macron avait enlevé peu de temps après, qui s'appelait l'impôt sur la fortune. Fait que pendant que Macron donnait un congé de taxe aux plus riches, il demandait à tous les travailleurs qui étaient forcés d'aller travailler en voiture ou d'utiliser leur voiture de payer finalement pour le... un peu comme la CAQ a fait. Donc, il y a aucun gouvernement capitaliste qui va véritablement offrir de solutions. Au mieux, il va essayer de mettre un plaster sur une plaie béante, mais il n'y en a aucun qui a de réelle solution.
OK. Ouais, ça fait juste... Mais ça fait juste, dans le fond, nous donner une crédibilité, finalement, nous, socialistes. Parce que, regarde, moi, je prends un exemple de quelqu'un qui se réclame socialiste, qui s'appelle Bernie Sanders. Je pense qu'on est tout au fait. Ben, quand même, le gars, il a fait du millage, puis... Qui est derrière M. Sanders? C'est les personnes les plus précaires, certes, mais les gens qui sont les plus soucieux de la question écologique. Est-ce que je me trompe?
Exactement.
Il y a une conjoncture pour le socialisme.
Tout à fait. Il est derrière l'idée du Green New Deal, qui est entre autres de développer des emplois verts, des alternatives. Parce que, éventuellement, si on n'a plus besoin de pétrole, on arrive à développer un transport en commun, on se projette des années en avant... Ben, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui travaille dans une usine pétrochimique à faire du pétrole, ben, il faut le reclassifier pour qu'il fasse quelque chose, qu'il ait un job.
Ça fait une formation. Une formation payée, là.
Tout à fait. Puis c'est des chimistes, c'est des personnes qui sont hautement qualifiées, mais ils pourraient travailler à faire quelque chose qui nous aide à nous sortir de cette crise écologique-là, plutôt que de nous y enfoncer comme les compagnies pétrolières font actuellement. Fait que des green new jobs, c'est ça aussi, c'est transformer notre parc, admettons, de maisons pour lequel on a une crise de logement, on est aux portes de cette crise-là, et puis au contraire, les transformer pour que les maisons soient de meilleure qualité, pour que ça coûte moins cher les chauffer, pour qu'on gaspille moins d'énergie, pour que ça coûte moins cher les climatiser, pour qu'on soit plus confortable avec tous les bouleversements écologiques qui s'en viennent.
OK. C'est tout un défi, finalement. Mais ça, ce défi-là, nous, socialistes, on est prêts à l'assumer.
Tout à fait.
C'est ça. Parce que là, j'espère que ça a été quand même assez clair pour nous, pour vous qui écoutez le podcast ou qui va l'écouter. On a parlé de nationalisation, de démocratisation de l'économie, qu'il y avait une responsabilité de l'État à offrir des formations pour... les travailleurs qui étaient, mettons, dans une usine qui était dans l'industrie du pétrole pour aller, mettons, vers une autre énergie laquelle on pourrait nommer là.
Ça peut être du solaire, ça peut être de l'éolien, marée motrice, hydroélectricité. On a le choix. Il y a beaucoup d'énergies vertes qui sont en développement, qui sont rendues maintenant souvent même moins chères que des alternatives polluantes.
Donc l'État a un rôle de très important dans la transition. On peut pas nier le rôle de l'État. Pour bâtir un mouvement, je pense qu'on l'a pas assez dit, mais j'aimerais vous entendre, Rosalie puis Fred, puis ça va être probablement la dernière section de notre podcast. Comment voyez-vous ça, vous bâtir un mouvement de masse sur la question écologique, mais d'un point de vue de lutte de classe, d'un mouvement révolutionnaire?
Ben, je commencerais peut-être par dire que des masses mobilisées pour l'environnement, on en a déjà vu à deux reprises, puis on n'a pas besoin d'aller bien loin, juste au Québec, le 15 mars 2019 et le 27 septembre 2019, on a vu c'était quoi des mouvements de masse. Il y a déjà des jeunes, il y a déjà des personnes plus âgées, des travailleurs, des travailleuses, plein de personnes des différentes couches de la société qui sont conscientes de la problématique. Mm-hmm. Ces personnes-là sont déjà mobilisées sur la question environnementale. Mais souvent, ils disent, bon, mais qu'est-ce que je devrais faire? Mais en fait, si le 27 septembre dernier, par exemple, à Montréal, puis partout au Québec, parce que c'était partout au Québec, ces manifestations-là,
ouais,
c'était dit, aujourd'hui, on change le système. On aurait changé le système. À l'image de d'autres mouvements de masse un peu partout dans le monde, si les personnes ont conscience de leur pouvoir, le fait que les masses ont le pouvoir. 500 000 personnes dans la rue à Montréal, il n'y a aucun corps policier, aucune armée qui peut arrêter ça. Mm-hmm. C'est un mouvement quasi pré-révolutionnaire. Tous, ils veulent changer la société. Ils veulent une société plus verte. Mais ils se demandent, ah, comment on pourrait faire ça? Mais déjà, de prendre conscience que c'est la base du mouvement. Les personnes sont déjà là. Ouais. Ils savent déjà c'est quoi les problèmes. C'est juste de réfléchir aux solutions et de faire le premier pas pour aller dans cette direction-là. Parce que souvent, les personnes ils ont conscience, mais ils se font un petit peu avoir par beaucoup de politiciens qui leur disent « Oui, oui, on vous a entendu, mais on fera rien. » Ou ils promettent quelque chose qui n'est que, comme tu disais, du greenwashing ou astroturfing, qui essayent surtout d'endormir les masses.
Donc, pour résumer ce que tu as dit, il faut prendre conscience dans un premier temps qu'on appartient à une classe sociale qui est le plus grand nombre pour aller de l'avant. C'est comme ça que j'ai compris en fait ce que tu viens de nous expliquer, hein. C'est de se dire, hey, on a le nombre, là. C'est nous le nombre. Puis eux autres sont une minorité, puis l'argent on sait qu'il est, mais il faut se faire confiance.
Tout à fait.
OK. Puis là, ça m'amène vers Rosalie. Je sais que tu veux intervenir là-dessus, puis j'ai bien hâte de t'entendre là-dessus, mais ça m'a fait penser aussi à la discussion qu'on a eue l'autre fois sur d'avoir une direction révolutionnaire, un parti, lorsqu'on parlait de l'événement mai 68 que tu nous as résumé, ma foi, de façon extraordinaire. J'aimerais t'entendre sur la direction, mais je sais que tu avais aussi peut-être autre chose à dire.
Ouais.
Tu peux-tu écrire ça, la question d'un parti, ou... En tout cas, je reviendrai là-dessus. Mais ouais, c'est parce que je pense que ce qui est frappant, c'est que Fred disait, on fait trop facilement confiance à des politiciens, mm-hmm, alors qu'on serait capable d'avoir notre propre véhicule politique. Et c'est ça pourquoi Alternative Socialiste...
Ben, peut-être juste brièvement mentionner que c'est ça, la grève du 27 septembre, là, on était un demi-million dans les rues, là, tout le monde... Sauf peut-être Trudeau qui aussi fait partie de la manifestation, mais la plupart du monde, on était d'accord pour qu'est-ce qui devait changer, ou d'accord au moins sur le fait qu'il y a une crise climatique. Mais il s'est passé quoi finalement?
Ben oui.
Il s'est rien passé. Puis c'est ça, un peu ça que tu dis, Fred, c'est que c'est pas assez d'aller dans les rues. Il faut faire de quoi? Il faut faire des grèves, il faut prendre le pouvoir, il faut savoir, il faut être conscient de qu'est-ce que nous on peut faire. Notre force qu'on a ensemble contre la force des capitalistes, parce que oui, en effet, ils ont leur propre force là, du capital, c'est sûr, là. Mais donc c'est ça, c'est pas assez de juste faire des manifestations monstres, même si c'était monstre. Mais
ouais, continue, oui.
je voulais rajouter aussi, c'est important, je pense, mais une chose pour peut-être aider justement la classe des travailleurs et travailleuses à prendre conscience de leur force, c'est aussi les aider à prendre conscience de comment tous les problèmes qu'on a sont reliés. Puis par exemple, juste pour mentionner, là, si on parle des conflits armés, la plupart des gens veulent la paix dans le monde.
Ouais.
T'sais, on veut pas qu'il y ait des guerres partout tout le temps, mais il y a tellement de guerres qui sont causées par le pétrole et par les intérêts capitalistes et impérialistes un peu partout. Donc ça, c'est un des nombreux liens que nous, en tant que socialistes, on peut aider la classe des travailleurs et travailleuses à faire pour qu'on se rende compte de plus en plus qu'on devrait tous être solidaires contre ces capitalistes qui nous oppriment de façon climatique, de façon économique, de façon impérialiste, etc.
Donc, avant de donner quasiment le dernier mot de la fin à Fred, ce que j'entends dans ton discours, Rosalie, qui est ma foi fort pertinent, c'est qu'il y a aussi une dimension internationale et internationaliste. La lutte est internationale puisqu'il y a capitalisme et donc impérialisme. Et que, ben c'est ça, on peut pas se refermer sur nous-mêmes. C'est, est-ce que j'ai bien compris, en fait, une partie de ton message qui me semblait le plus important, c'est la dimension internationale?
Dans le fond, ben, c'est vrai, c'est ça. On parle de l'environnement, puis on a parlé beaucoup du Québec, mais on s'entend que le problème de l'environnement, c'est partout. Mm-hmm. Que nous, on reçoit en pleine face de la pollution de partout dans le monde. Qu'il y a d'autres endroits où est-ce que eux autres, les niveaux de l'eau montent et ils se font engloutir. À cause que nous, on conduit nos autos tout le temps, dans le fond.
Ouais.
Tu sais, donc, tous ces problèmes-là sont reliés. À cause que, justement, le capitalisme lui-même est global et affecte tout le monde en même temps.
Donc, oui, on ne l'a pas spécifié peut-être assez, mais le capitalisme est global. Fred?
Ben, je voudrais rajouter, puis peut-être souligner aussi, parce que c'est une lutte qui est tout à fait récente, la lutte des Wet'suwet'en au Canada.
Ouais.
Et la lutte aussi des Premières Nations, des peuples autochtones au Canada, un peu partout, ils ont appuyé en faisant des blocages ferroviaires. À la base, ces personnes-là aussi veulent, ils ont un sentiment d'autodétermination. Ils veulent décider qu'est-ce qui se passe, comme on l'avait mentionné un peu plus tôt, qu'est-ce qui passe dans leur cour arrière de chez eux. Parce que c'est chez eux, dans le fond. Puis Trudeau, premier ministre du Canada, voulait évidemment il a nationalisé un pipeline pour pouvoir le forcer aussi pour qu'il passe dans ce coin-là. Et puis, ça fait que les Autochtones, comme ça, ils ont manifesté. Ils ont bloqué. Et puis, ils continuent encore d'être un petit peu écœurés par la police, la GRC, entre autres. Mais quand... Il y a eu un sondage, en fait, qui a été fait pour voir où est-ce que les Québécois penchaient par rapport aux appuis aux Wet'suwet'en. Puis, en fait, ce qui est sorti de ce sondage-là, c'est qu'une majorité de Québécois, en fait, les appuyaient, et particulièrement les femmes. Parce que, visiblement... Plus quelqu'un, je pense, subit de l'exploitation puis différentes oppressions, plus cette personne-là aussi réalise aussi de quelle classe elle fait partie dans la société. Puis, et donc, la lutte des Wet'suwet'en, autant que la lutte, par exemple, pour un transport en commun public et gratuit, ou des luttes pour des services publics de qualité, sont toutes liées à quelque part. Puis c'est toutes des luttes qu'on se rend compte qui sont... Quand on gratte un peu, ils ont tous des capitalistes derrière, ils ont tous des compagnies, c'est toutes des luttes où il y a quelqu'un qui essaye de chercher à faire le plus grand profit possible au détriment des utilisateurs et utilisatrices, au détriment de la population, au détriment des femmes. Fait que quand on pousse la lutte plus loin, quand on organise le monde, puis quand on pousse la lutte contre le capitalisme, contre ces profits-là démesurés, on se rend compte que toutes ces luttes-là, à quelque part, sont reliées. Puis c'est toutes des luttes de classe, à quelque part.
Excellent, Fred. Veux-tu rajouter quelque chose aussi, Rosalie?
Moi, j'avais juste les pouces levés, c'est
OK. Oui, écoute, Fred, c'était non seulement d'actualité, mais c'était le bienvenu que de parler de nos sœurs et frères autochtones qui ont mené des luttes, qui en mènent encore, puis qui vont continuer à mener leur lutte pour eux-mêmes, mais aussi, je pense, pour l'humanité. C'est très intéressant, Fred, que t'as amené la question, finalement, de la souverainetés et de l'autodétermination comme solution, entre autres, à la question écologique. En soi, ce n'est pas une réponse à l'écologie, mais que les communautés politiques, la communauté humaine puissent réaffirmer, dans le fond, son pouvoir, ce qui fait un lien avec ce que tu as mentionné, c'est-à-dire la démocratisation des institutions, du secteur public, ainsi que de l'économie. On a parlé des justement de Wet'suwet'en, mais aussi des femmes qui ont appuyé massivement les revendications, c'est-à-dire que la conscience de classe commence là où on reconnaît qu'il y a oppression envers soi et envers autrui. C'est fantastique, puisque finalement, ça nous amène tout ça, lorsqu'on relie tout ça, ça s'appelle le socialisme.
Tout à fait.
N'est-ce pas, Fred?
Exactement.
OK. Un mot là-dessus pour terminer? Non? Bon, ben je vais faire le mot de la fin, camarade. Écoutez, j'espère qu'on a pu... montrer qu'il y avait un lien entre la crise climatique, puisque c'était le sujet du départ, et qu'il y a un lien entre ce système économique qu'on appelle le capitalisme néolibéral, qui frappe partout dans le monde, qui fait des oppressions partout dans les catégories sociales, mais c'est surtout la classe des travailleuses et travailleurs, en fait, c'est essentiellement elle qui vit qui vit sans les moyens, et puis que la crise climatique ne peut pas être réglée si on ne prend pas en considération la personne humaine, peu importe son genre, sa sexualité, son métier, son domaine. Alternative socialiste milite hardiment pour bâtir un mouvement, c'est-à-dire créer un rapport de force contre la classe capitaliste. On travaille aussi pour qu'il y ait un parti, parce qu'on... De ce temps-ci, il faut le répéter, dans une période où la tendance est très anti-parti, je pense que ça s'est quand même manifesté un peu partout en Occident. On travaille pour qu'il y ait un mouvement, donc un parti révolutionnaire, socialiste, démocratique, pour le plus grand nombre, et qu'on puisse en finir avec ce capitalisme qui détruit notre environnement. Donc, on se dit à la prochaine. Merci, Rosalie, puis merci, Fred, pour toutes les statistiques, d'avoir amené un peu de lumière dans ce chaos informatique, pas informatique, mais je veux dire d'information à l'heure des fake news et des climato-sceptiques. Merci, camarades.
Merci à vous deux.
Merci.
Alternative socialiste est un groupe politique qui lutte pour les intérêts des travailleurs, des travailleuses et de la jeunesse. Joindre Alternative socialiste, c'est s'impliquer dans la lutte.